France Inter.
Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des frappes de grande envergure et des rues vidées de leurs habitants. On ira à Téhéran, ce troisième jour de guerre où l'armée israélienne dit avoir mené une nouvelle opération. L'Iran parle de 500 morts depuis le début des frappes samedi, tandis que les secousses sont de plus en plus visibles dans les pays voisins, au Liban, où Israël et le Hezbollah s'affrontent, et dans les pays du Golfe qui ont été visés par des bombardements iraniens, la France condamne.
Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête à participer à leur défense.
Condamnation par la voix de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Alors, quelles conséquences de tout cela pour le Moyen-Orient? Quelle suite pour le régime iranien? On en parle à 13h30 avec nos invités et avec vos questions. 01 45 24 7000. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure des conséquences économiques. Il y aura sans doute un effet à la pompe, mais pas de pénurie en vue. On verra ça. Cette question aussi dans l'actualité du jour. Le procès de Tariq Ramadan va-t-il être renvoyé? Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Céline.
L'islamologue jugé pour viol à Paris, mais il ne s'est pas présenté ce matin à l'audience.
Oui, Tariq Ramadan a fait savoir qu'il était hospitalisé à Genève depuis 3 jours, mais l'accusation doute de la sincérité de cette excuse médicale. La Cour va décider dans les heures qui viennent si elle renvoie ou pas ce procès.
Merci Jean-Philippe Deniaud. On vous retrouve tout à l'heure. On parlera aussi des excuses de Jean-Luc Mélenchon, accusé d'antisémitisme après avoir plaisanté sur le nom de Raphaël Glucksmann. Notre feuilleton cette semaine nous emmène dans les coulisses du bazar d'électricité, magasin parisien qui fête son 140e anniversaire.
Il a ouvert ses portes donc en 1880. Donc c'est vraiment 2 ans après l'invention de l'ampoule Edison. Donc il est vraiment contemporain des tout débuts de l'électricité en fait, hein, et de l'éclairage électrique on va dire.
Et on verra que c'est un sacré boulot d'allumer la lumière dans le magasin le matin. On ira aussi visiter une exposition mystérieuse à Céré, admirer les magnolias en fleurs à Dinan en ce lundi ensoleillé. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Benjamin Netanyahou l'avait promis, les frappes vont s'intensifier dans la capitale iranienne, avait dit le premier ministre israélien. Et en cette fin de matinée, les murs ont en effet tremblé dans les rues de Téhéran où l'armée israélienne dit avoir mené une frappe de grande envergure. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
Depuis Téhéran, vous êtes le correspondant de France Inter et d'RFI. Quelle est la situation actuellement dans la capitale iranienne?
Alors, il y a depuis 10 minutes de nouvelles frappes donc sur Téhéran, dans le centre de la capitale iranienne, mais aussi autour de l'ancien palais du Shah, dans le nord de Téhéran, le palais de Saadabad qui a été transformé en musée depuis. Dans une partie de ce palais, dans ce musée, il y a des bâtiments qui appartiennent à la présidence iranienne, qui ont été donc apparemment touchés. Donc après une accalmie de 9 heures environ, il y a en ce moment de nouvelles frappes sur la capitale iranienne.
On sait que la population avait été appelée à quitter Téhéran par les autorités. Est-ce qu'il reste du monde encore aujourd'hui dans la capitale?
Alors, les rues de la capitale sont totalement désertées. Donc, Téhéran ressemble à une ville morte. Tous les magasins sont fermés, les commerces sont fermés. Il n'y a même plus de circulation automobile ou de file d'attente devant les stations d'essence, parce que beaucoup de gens ont quitté déjà la capitale iranienne, parce qu'on se rend compte désormais qu'on est dans un conflit qui peut durer plusieurs semaines et les frappes peuvent devenir de plus en plus dures.
Alors, le Croissant Rouge iranien a donné ce matin un premier bilan. L'organisation parle de 555 personnes tuées dans le pays depuis samedi. Est-ce qu'on en sait plus, Siavosh, sur les villes, sur les sites qui ont été ciblés?
Alors, il faut savoir que c'est un bilan bien sûr provisoire, parce que on a par exemple des chiffres concernant plusieurs frappes, notamment une frappe contre une école dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. Un missile a touché donc une école pour filles, et là il y a seulement dans cette école il y a 165 écolières qui ont été tuées dans la frappe donc qui a eu lieu samedi. À Téhéran, il y a au moins une trentaine de morts depuis hier. Dans la ville de Hamedan, il y a 8 morts, et donc ce bilan de 555 morts est un bilan bien sûr provisoire, parce que il y a eu des frappes dans de nombreuses villes iraniennes depuis samedi matin, et donc on peut s'attendre à un bilan beaucoup plus élevé.
Merci. Patricia Vosges-Gazi depuis Téhéran. Entretien enregistré il y a quelques minutes avec notre correspondant, car les communications sont toujours très limitées avec l'Iran. Rappelons d'ailleurs aussi que ce bilan de 555 morts fourni par le 300 rouge iranien n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. On voit donc en tout cas que les frappes se poursuivent dans le but de décapiter le régime, mais aussi de mettre à bas son arsenal militaire. Bonjour Maurice Loumagne.
Bonjour Céline.
Alors que sait-on justement du stock d'armes de Téhéran ?
Eh bien, d'après de nombreux experts militaires, les stocks de missiles iraniens sont encore loin d'être épuisés. Téhéran en posséderait actuellement entre 1500 et 2000. Ces projectiles de courte et de moyenne portée pourraient lui permettre de frapper Israël et les pays du Golfe pendant encore quelques semaines. Quant aux drones, les Shahed, le pays peut en produire plus d'une cinquantaine par jour et il en aurait plusieurs milliers en réserve. Ces stocks d'armes, l'Iran a pu les reconstituer en partie ces derniers mois après un premier coup porté à son arsenal. L'opération israélienne Rising Lion en juin dernier, Tsahal avait alors détruit la moitié des stocks de missiles iraniens.
Alors vous parlez, Boris, là, des drones, des missiles qui sont le point fort du régime parce que le reste de l'équipement militaire, on va dire qu'il est vieillissant.
Oui, et notamment la flotte d'avions de combat. L'Iran en possède un peu plus de 200, mais la plupart sont hors d'âge. Certains datent des années 90, voire même des années 80. Quant à la marine iranienne, là encore, elle est vieillissante et peu développée. Environ une trentaine de sous-marins et quelques dizaines de navires de guerre qui ont d'ailleurs été visés ces dernières heures. 9 d'entre eux auraient été coulés par l'armée américaine.
Merci Boris Loumagne de la rédaction internationale. Ce conflit dépasse désormais très largement les frontières de l'Iran. On va parler du Liban, on va parler des pays du Golfe dans un instant. Mais partons tout d'abord en Turquie. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous vous trouvez à Kapıköy, c'est l'un des principaux points de passage sur la frontière turco-iranienne, frontière terrestre officiellement fermée ce matin par la Turquie. Les voyageurs à la journée ne peuvent plus traverser. Mais en réalité, Timur, elle reste partiellement ouverte cette frontière.
Oui, ce matin, il y a des passages dans les deux sens, des Iraniens qui rentrent dans leur pays et d'autres qui le quittent. Ils étaient bloqués à la douane depuis hier. Ils ont enfin pu sortir d'Iran aujourd'hui. Certains avec qui j'ai pu échanger arrivent de Téhéran. Ils racontent les bombardements, le survol des avions de chasse sur la capitale. Ils ont fait plus de 10 heures de route pour atteindre cette frontière. Ils ont entendu les célébrations à l'annonce de la mort de Ali Khamenei, mais ils ont aussi vu les partisans du guide se lamenter. La chute du régime, ils n'y croient pas pour l'heure. Il n'y a pas de pénurie dans les magasins. Il est encore possible de circuler sur les routes et les forces de l'État gardent la situation sous contrôle, me confiait l'un d'eux. Une jeune femme me disait, elle, être très inquiète pour son pays. Le régime a tué des milliers de personnes. Maintenant, ce sont les bombes américaines et israéliennes qui tuent. C'est la population qui paye le prix de la guerre, dénonce-t-elle.
Merci Timur Öztürk. En Turquie, à la frontière avec l'Iran, avec Eric Audrin pour les moyens techniques. De son côté, Israël annonce prolonger la fermeture des écoles et des lieux de travail. Jusqu'à mercredi soir, tous les rassemblements resteront interdits selon un communiqué des autorités. Une série d'explosions a été entendue aujourd'hui à Jérusalem alors que les gardiens de la Révolution ont annoncé que leurs tirs de missiles avaient visé les bureaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi que le quartier général du commandant de l'armée de l'air. Et puis cette guerre entraîne aussi désormais le Liban, moins d'un an et demi. Après moins d'un an et demi de trêve, voilà Beyrouth sous les bombes israéliennes et des familles sur la route pour fuir les frappes. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
La nuit dernière, le Hezbollah libanais a lancé des missiles et des drones vers Israël en guise de représailles après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Et le gouvernement israélien se dit aujourd'hui déterminé, Claude, à mettre le mouvement chiite hors d'état de nuire.
Oui, et sa réplique a été immédiate et massive. Explosions, immeubles détruits. Les frappes israéliennes ont à la fois visé les quartiers sud de la capitale, sous contrôle du Hezbollah, et le sud du pays, d'où le mouvement chiite lance ses attaques sur Israël. Alors ces bombardements, ils ont fait au moins 31 morts selon les autorités libanaises. Ils ont, vous l'avez dit, jeté des centaines de personnes sur les routes, sur les réseaux sociaux. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne a prévenu ces bombardements vont durer et ils vont durer longtemps. Il promet que le Hezbollah va citer, je cite, le prix fort de son engagement dans le conflit. De hauts responsables politiques et militaires sont ciblés. Et au Liban, c'est donc le chaos tant redouté qui reprend. Le président Joseph Aoun déplore que son pays soit une fois de plus entraîné malgré lui dans un conflit régional. Le Liban qui vient d'annoncer l'interdiction de toute activité militaire du Hezbollah. Hezbollah qui est sommé de rendre ses armes. Le mouvement a certes été très affaibli par son affrontement avec Israël après l'attaque du 7 octobre, un affrontement qu'il avait donc soutenu. Il y a un an et demi, un cessez-le-feu était entré en vigueur. L'été dernier, le Hezbollah n'avait pas réagi lors des précédentes frappes israéliennes et américaines contre l'Iran. Or, cette fois, on le voit, il s'implique directement et pour cause. Son existence, son financement, son armement dépendent du régime iranien et donc son avenir est conditionné à sa survie.
Et le Liban, merci Claude Guibal, n'est pas le seul pays à ressentir ainsi les secousses de cette opération lancée par Israël et les États-Unis. Les pays du Golfe se retrouvent aussi au cœur de ce conflit visé par Téhéran en raison de leur alliance avec les États-Unis. 5 personnes y ont été tuées depuis samedi dans des attaques lancées par l'Iran sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite, le Bahreïn ou encore les Émirats Arabes Unis, comme en témoigne ce Français, Eddy, qui est actuellement en vacances à Dubaï et qui a entendu des explosions.
On a entendu à peu près 3-4 déflagrations, tout à fait. Ça commence à être habituel, je vais vous dire.
Déflagrations, ces drones, ces missiles, est-ce que vous en avez vu ces dernières heures? Est-ce que vous en avez passé dans le ciel?
On en a vu un depuis qu'on est là, mais autrement, non, la plupart, ils passent au-dessus, en fait, pour aller toucher Abu Dhabi derrière. Hein. La plupart des choses qu'on a reçues sur la Palme, parce que nous, on est sur la Palme, aussi des débris. Hein. Normalement, on était censé partir aujourd'hui, bien évidemment, étant donné que l'aéroport a été touché 2 jours de suite. Tous les vols sont annulés, donc on est obligé d'attendre, et puis on attend des nouvelles par rapport à comment on est pris en charge au vu de la France. Quoi.
Voilà pour ce témoignage de ce Français à Dubaï, au micro d'Adrien Beck ce matin sur France Info. Et justement, la question de la sécurité de ces Français était au cœur d'une réunion organisée ce matin au Quai d'Orsay. Bonjour Paola Guzzo.
Bonjour.
Près de 400 000 Français sont résidents ou de passage dans la région, dit le ministre des Affaires étrangères. Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade, précise Jean-Noël Barrot, qui a donc donné une conférence de presse destinée, Paola, surtout à rassurer.
La sécurité des ressortissants français est notre priorité absolue. Les mots ce matin du ministre des Affaires étrangères parce qu'ils sont très nombreux dans la douzaine de pays touchés par des frappes. Près de 400 000, en majorité en Israël, aux Émirats Arabes Unis, mais un millier de personnes sont aussi en Iran. Jean-Noël Barrot a donc voulu passer un message rassurant.
Je sais l'inquiétude de nos compatriotes sur place. Je sais l'angoisse de leurs familles qui attendent leur retour. Avec la ministre Éléonore Carrois et l'ensemble des équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous sommes totalement mobilisés pour répondre à ces attentes. Nous n'économiserons aucun effort.
15 ambassades et consulats sont en lien avec les ressortissants français. Les services du ministère ont déjà répondu à près de 5000 appels passés à la cellule téléphonique du centre de crise depuis le début du conflit. Jean-Noël Barrot, qui a tenu ce matin à s'adresser aux Français qui vivent dans l'un des pays touchés par des frappes ou qui sont en vacances. Il les appelle à consulter régulièrement le site diplomatie.gouv.fr pour être à jour des consignes, mais aussi à s'inscrire sur un site, le fil d'Ariane, pour être localisé si nécessaire. Selon lui, la France est déjà prête à rapatrier les Français par voie terrestre quand c'est possible ou dès que les espaces aériens seront de nouveau ouverts.
Paola Guzzo pour cette réunion au Quai d'Orsay. Emmanuel Macron lui aussi devrait revenir sur la situation, sur la position de la France tout à l'heure lors de son discours sur la dissuasion nucléaire. Discours prévu de longue date mais qui suscitera une attention particulière dans le contexte actuel. La France étant avec le Royaume-Uni l'une des deux seules puissances nucléaires d'Europe. Quant à Bruxelles, elle réaffirme l'importance de la diplomatie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle à travailler sans relâche pour éviter, je cite, une propagation du conflit au Moyen-Orient. Un conflit qui risque de s'enliser, de déstabiliser durablement toute la région. C'est ce que craint Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était ce matin l'invité de France Inter et qui voit dans cette offensive des États-Unis et d'Israël une atteinte au droit international.
Le droit international, c'est l'affirmation d'une règle, sauf à aspirer à un monde de la jungle. Nous avons tous intérêt à continuer à défendre le droit international parce que c'est la meilleure garantie d'une règle pour tous. Les États-Unis vont payer très cher cet oubli d'un ordre international
vous
construit.
Vous le pensez de quelle manière?
Mais tout simplement parce que il rentre dans une logique d'intervention qui ne peut maintenant cesser. Le pari, c'est quoi? Le pari, c'est de frapper d'en haut en espérant que le moment venu, le peuple qui est en bas aura la force, aura les moyens de réagir et de prendre le pouvoir pour se diriger lui-même. Ça, c'est un vœu. Mais il y a aussi, derrière ce pari, un piège. Ce piège, c'est le risque d'un durcissement du régime. Et je trouve que mettre en avant le peuple iranien face à un régime qui a tiré contre lui avec les drames que nous connaissons tous, c'est un peu facile aujourd'hui dans le discours de Donald Trump. Et Donald Trump va devoir assumer les conséquences de ce qui est en train de se passer dans la région. C'est une véritable tragédie qui se déroule.
Dominique de Villepin, qui était tout à l'heure l'invité de la grande matinale de France Inter. Et des conséquences ? Eh bien, il y en a déjà des conséquences économiques notamment, car le trafic maritime et le trafic aérien sont très perturbés. On va en parler avec vous deux, Erwan Chassin et Luc Chemla. Bonjour.
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 D'abord les avions avec vous, Erwan. On entendait tout à l'heure le témoignage de ce Français bloqué à Dubaï. Il n'est pas le seul dans ce cas, car de nombreux vols ont été annulés encore aujourd'hui.
Oui, plusieurs pays ont fermé totalement ou partiellement leur espace aérien. L'Iran, Israël, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Résultat, les grands hubs du Golfe comme Dubaï, Doha ou Abu Dhabi, ces lieux de passage souvent obligés pour relier d'autres destinations dans le monde, eh bien, tournent au ralenti. Rien que ce week-end, les plateformes de suivi en temps réel du trafic aérien, comme FlyAware, ont recensé plus de 19 000 vols retardés, plus de 3 000 vols annulés. Ce matin, il y aurait plus de 1 000 vols encore supprimés. Les grandes compagnies du Moyen-Orient, comme Emirates, Qatar Airways ou Etihad, ont évidemment suspendu une partie de leurs vols. Mais les compagnies européennes aussi sont concernées. Air France, par exemple, nous informe ce matin que 5 vols à destination de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï ou Riyad sont annulés au moins jusqu'à demain. Idem pour le groupe Lufthansa, annulation au moins jusqu'à samedi. En fait, toutes les grandes compagnies à travers le monde sont contraintes de s'adapter, sachant qu'à ce stade, aucune date de retour à la normale n'est prévue. Conséquence, beaucoup de voyageurs, comme est dit qu'on a entendu à Dubaï, sont bloqués dans les grands hubs du Golfe pour une durée difficile aujourd'hui à définir. Et pour les autres, eh bien, il est vivement conseillé de consulter le statut de son vol avant de se déplacer.
Voilà donc pour le trafic aérien. Intéressons-nous maintenant au trafic maritime. Très perturbé lui aussi, Luc Chemla, car Téhéran a attaqué des navires franchissant le détroit d'Hormuz, qui sépare l'Iran des côtes d'Oman. Ce matin, les autorités maritimes ont encore fait état d'un pétrolier touché, ce qui a causé la mort d'une personne. Les principaux armateurs ont donc décidé de ne plus passer par cette zone, qui est pourtant une voie essentielle pour le transport des hydrocarbures. Alors, Luc, que cherche à faire l'Iran ?
Eh bien, faire pression. Ce détroit est une arme de guerre, confie par exemple un spécialiste du secteur, car 20% du pétrole mondial y transite, et pareil pour le gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. C'est la principale voie de navigation connectant les riches pays pétroliers du Moyen-Orient au reste de la planète. Donc, en cas de fermeture ou de restriction de navigation, le marché est déstabilisé, avec une conséquence, la hausse du prix du baril. Et derrière ces mécaniques, du prix à la pompe dans les pays importateurs comme les États-Unis. Or, c'est ce que veut éviter Washington, car les élections de mi-mandat sont en fin d'année et Donald Trump a promis à son électorat des prix bas pour l'énergie. Le président voudra sûrement éviter un baril à plus de 100 $, du jamais vu depuis le début de la guerre en Ukraine.
Alors en attendant, Luc, les conséquences se font déjà sentir. À l'ouverture du marché, le prix du baril a augmenté de 13%. Il dépasse les 80 $. Le gaz européen lui bondit d'environ 20%.
Oui, car le marché réagit et anticipe une baisse des flux vu que la navigation dans le détroit d'Hormuz est perturbée, voire impossible. Il faut aussi ajouter l'envolée des primes d'assurance maritime pour les pétroliers à cause du danger. Il est donc probable que le prix à la pompe augmente en France, mais pas tout de suite. D'après différents spécialistes, il faut à peu près 2 semaines pour voir l'impact dans les stations-service. Une hausse de 10 $ du prix du baril peut faire augmenter de 7 à 10 centimes celui à la pompe.
Alors faut-il s'attendre à une pénurie pour le pétrole ?
Tout va dépendre de la durée de la guerre, mais à l'heure actuelle, c'est peu probable, notamment car les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, dont la France, ont obligatoirement 3 mois de stock stratégique d'hydrocarbures. Et l'OPEP, qui représente les pays importateurs, a déjà prévu d'augmenter la production.
Luc Chemla, Erwan Chassin, merci à tous les deux pour le tour d'horizon des conséquences économiques. Et puis c'est un effet collatéral de ce nouveau conflit. Volodymyr Zelensky se dit préoccupé par un possible manque de défense aérienne pour l'Ukraine. Alors qu'au moins 5 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes russes qui ont touché plusieurs régions de l'Ukraine, le président ukrainien dit espérer toujours qu'une nouvelle rencontre entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis pourra se tenir comme prévu entre les 5 et 8 mars prochains.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour des viols commis sur 3 femmes entre 2009 et 2016 en France. Le procès de Tariq Ramadan s'est ouvert ce matin. L'islamologue suisse est jugé devant la Cour criminelle départementale de Paris. On vous y retrouve, Jean-Philippe Degnaud. Le procès qui s'est ouvert en son absence.
Ah oui, Tariq Ramadan est, selon ses avocats, hospitalisé depuis samedi à Genève, victime d'une rechute dans sa sclérose en plaques. Il ne cherche certainement pas à échapper à son procès, promet la défense, et c'est certainement pas de gaieté de cœur que nous vous demandons le renvoi, argumente Maître Burguburu. Nous aussi, ça fait des semaines qu'on bosse comme des dingues sur ce dossier. Mais l'avocat général doute de la sincérité de Tariq Ramadan, qui utilise tous les moyens pour ne pas être jugé, affirme Philippe Courroy, parce qu'il n'a pas fourni le certificat de son admission à l'hôpital universitaire de Genève. Et d'ailleurs, que faisait-il à Genève, interroge l'accusation, puisque son contrôle judiciaire l'obligeait à prévenir la justice de tout déplacement hors de France, ce qu'il n'a pas fait. Oh, ça fait des mois qu'il effectue des petits allers-retours en Suisse pour se rendre au chevet de sa mère malade, justifie la défense. Mais l'avocat général ne voit dans ses explications que des leurres de l'accusé. Philippe Courroy réclame un mandat d'arrêt international ainsi qu'une contre-expertise médicale. C'est donc avec tous ces éléments que la Cour décidera dans la soirée, peut-être demain, si elle maintient ce procès avec ou sans Tariq Ramadan ou si elle le renvoie à une prochaine session. Mais alors là, ce serait pas avant plusieurs mois.
Récit d'audience signé Jean-Philippe Degnaud, merci. Et puis autre procès qui lui se termine aujourd'hui. La Cour d'assises spéciale de Paris doit rendre son verdict au procès en appel de quatre hommes jugés pour avoir joué un rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. L'accusation a réclamé des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Jean-Luc Mélenchon se dit désolé d'avoir déformé par erreur le nom de Raphaël Glucksmann. Hier, lors d'un meeting à Perpignan, il avait plaisanté sur la prononciation du patronyme de l'eurodéputé. L'intéressé y avait vu une dérive, je cite, dans les eaux brunes de l'antisémitisme. Le leader de la France insoumise a donc décidé, Laurence Perron, de faire amende honorable.
L'objet du délit glissé avec gourmandise en plein meeting ce week-end.
Comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon, après, j'en ai pour des heures, quoi.
Les réactions politiques fusent, à droite comme à gauche. L'intéressé Raphaël Glucksmann dénonce une plaisanterie qui joue avec les pires codes de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Ok, Jean-Marie Le Pen a taclé l'eurodéputé quand le patron du PS, Olivier Faure, estime qu'on n'est plus là dans le dérapage, mais dans la dérive sur les eaux brunes de l'antisémitisme. Ce matin, sur le réseau social X, le leader insoumis se dit désolé et justifie une erreur de prononciation comme il aurait déformé aussi les patronymes de Clinton ou de Trump. La semaine dernière, c'était aussi la prononciation du nom du prédateur sexuel américain Epstein en Epstein qui avait soulevé l'indignation de ceux qui considèrent désormais que Jean-Luc Mélenchon surfe sur un antisémitisme qui n'a rien de résiduel à des fins électoralistes.
Laurence Perron, service politique de France Inter. C'est un site qui produit 300 000 tonnes d'aluminium par an. Le site d'aluminium Dunkerque va-t-il être racheté par un groupe de Bahreïn? Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
L'entreprise française annonce en tout cas être entrée en négociation exclusive avec Aluminium Bahreïn.
Oui, l'un des très gros leaders mondiaux à l'affût du site de Dunkerque, hein, vous l'avez dit, 750 salariés, dont l'avenir ne serait pas menacé par ce rachat. L'emploi ne sera pas affecté, c'est du moins ce qu'assure la main sur le cœur ce repreneur potentiel. Bercy gardera tout de même un œil très attentif sur cette prise de contrôle stratégique. L'État, qui envisage même une montée au capital, selon nos informations, à hauteur a priori de 10% via la BPI, la Banque publique d'investissement. Des discussions en ce sens sont même déjà engagées. Aluminium Dunkerque, ancien fleuron du groupe Péchiné, qui depuis 5 ans est aux mains d'un fonds américain, qui produit, vous l'avez dit, 300 000 tonnes d'aluminium par an, qui est en bonne santé, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, un bénéfice net de 185 millions en 2024. Aluminium Dunkerque, qui est donc à céder par volonté du propriétaire actuel de vendre au meilleur moment. Au service de Bercy de veiller maintenant ces prochaines semaines à ce que tout ça soit compatible avec les intérêts économiques du pays.
Merci Maxime Deb, service économie de France Inter. Et puis toujours à propos d'industrie et de reprise, le tribunal de commerce de Bordeaux vient de faire connaître sa décision pour les papeteries de Condat dans le Périgord. Il retient l'offre de reprise du groupe français SBB qui prévoit de garder 10% des effectifs actuels, soit une vingtaine de salariés. C'est l'heure du pompage et des opérations de nettoyage dans les régions touchées par les crues. L'épisode est désormais terminé. Plus aucun département n'étant en vigilance orange. La Charente est repassée en jaune hier après-midi et les assureurs continuent de faire les comptes. Les dommages causés par les tempêtes Nils et Pedro ces dernières semaines vont coûter 1,2 milliard d'euros selon France Assureur et la Caisse Centrale de Réassurance. En tout cas, après ces semaines de pluies ininterrompues, le soleil a fait son grand retour. La douceur aussi, on verra ça dans le bulletin météo de Sophie Briat qui vient d'arriver dans le studio dans quelques minutes. Il y a en tout cas comme un air de printemps et à Dinan, notamment en Bretagne. Le grand magnolia du centre-ville est en fleur, tellement photogénique qu'il est interdit de se garer devant pour ne pas gâcher la photo. Reportage Joanne Moison.
C'est écrit sur les panneaux, floraison du magnolia, stationnement interdit du 27 février au 16 mars. Caroline vient de le prendre en photo.
Il est magnifique et on en profite qu'il n'y ait pas de voiture stationnée devant pour l'admirer.
Le vieil arbre majestueux de plus de 170 ans est planté juste devant la boutique de souvenirs où travaille Cécile.
Je suis aux premières loges, donc je vois l'évolution tous les jours. Là, les fleurs commencent à s'ouvrir.
Et ce qui ramène du monde, ce magnolia?
Du monde, il y a de la curiosité, beaucoup de photographes. Puis dès qu'il y a un petit rayon de soleil, forcément que ça met de la lumière, donc c'est magnifique.
Il est génial ce magnolia, il est très très beau. Moi je suis dinanais, ça fait des années que je le regarde, que je le prends en photo. C'est vraiment un très bel arbre.
Il est magnifique, oui. Il a un tronc un peu penché parce que on m'a raconté qu'il s'était cassé. Et donc soit qu'il a pris une forme particulière et qu'il s'est beaucoup étalé. C'est pour ça qu'il est vraiment superbe.
Et oui, ce magnifique magnolia avait effectivement été remis sur pied après la tempête de 1967.
Redonner l'espoir à tous les sinistres et des tempêtes de ces dernières semaines. Joanne Moison, ici Armorique. Et puis dans un autre genre de beauté, à Amsterdam, la direction du Rijksmuseum, l'un des plus grands musées néerlandais, annonce avoir découvert un nouveau Rembrandt. Il s'appelle Vision de Zacharie dans le temple, grâce à des techniques de pointe. Les chercheurs du musée sont parvenus à authentifier cette œuvre peinte en 1633 et qui provient d'une collection privée. 13h26, restez avec nous sur France Inter. Dans un instant, la météo de Sophie Briat. On va voir ce que la semaine nous réserve. Je crois savoir que le soleil va être au rendez-vous. On accueillera ensuite nos invités, la chercheuse spécialiste du Moyen-Orient, Yasmina Asrangis, et la cofondatrice d'une association d'étudiants iraniens, Aïda Tavakoli, pour évoquer les frappes qui se poursuivent, quelles conséquences pour le Moyen-Orient, quelles suites pour le régime iranien. On attend bien sûr vos questions 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton cette semaine nous emmène dans l'un des plus vieux magasins de la capitale, le bazar d'électricité à Paris. 140 ans que la boutique est consacrée aux lumineurs et c'est toute une logistique, on le verra dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France. Bonjour Cécilia Arbona.
Bonjour.
Chaque lundi, un lieu dans l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au musée d'art moderne de Céré.
Pour Mimosa, une exposition de dessins et de collages d'un auteur intrigant, Hippolyte Engen. Il a semé des boutons d'or comme des indices sur son parcours et nous allons partir à sa recherche.
Et bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui?
La pianiste Mira, qui sort un EP de compositions instrumentales au piano et qui nous parle d'un autre pianiste, William Scheller, et sa chanson « Oh, je cours tout seul ».
Merci à tous les deux, à tout de suite.
Vous êtes de bonne humeur, mais vous ne savez pas pourquoi? Nous, on vous le dit, vous avez bien dormi. ZQuiz Sommeil à la mélatonine contribue à réduire le temps d'endormissement. L'effet bénéfique est obtenu en consommant 1 mg de mélatonine avant le coucher. ZQuiz Sommeil est un complément alimentaire réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants, disponible uniquement en pharmacie. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bon, alors aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur bioclimatique.
Très bien, Chantal Chiacala, c'est un grand classique.
Et demain, s'il fait trop chaud, il me faut une pergola à toit ouvrant, non?
Bien sûr.
Et si je n'ai pas envie de voir mes voisins, hein? Des stores motorisés sur la pergola, vous savez faire?
Évidemment.
Et en même temps, celle-ci est design. Oh, j'hésite, hein?
C'est aussi ça, le choix des pergolas Akena.
Dites donc, vous n'auriez pas une pergola pour chacune de mes envies, par hasard?
Et si, Chantal?
Ben, au moins, vous n'êtes pas contre à rien.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas!
Comment le groupe EDF accompagne l'électrification du transport routier? Jérôme Clichy, du concessionnaire Gorias, nous l'explique tout à l'heure.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La météo à 13h28.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Céline, bonjour. Alors, à tous.
Le programme cet après-midi, du bleu, du soleil, un temps,
oui,
plus calme.
Ça fait du bien. Mais oui. Sur une grande partie du pays, et le ciel est un peu plus voilé quand même, de la baie de Somme à la pointe du Cotentin jusqu'au Pays Basque et le massif pyrénéen, en passant par le massif central et l'Aquitaine. Les nuages sont un peu plus nombreux sur la Bretagne et vous l'avez compris, le franc soleil, le ciel limpide se trouve entre le nord, l'Île-de-France, le Grand Est et la région lyonnaise. Dans le sud, le ciel est bien couvert encore cet après-midi, de la plaine du Languedoc vers le midi toulousain, les contreforts du massif central et la vallée du Rhône. De faibles pluies tombent sur le pourtour méditerranéen et vers les Cévennes, et ceci ciel nuageux et parfois pluvieux va s'installer jusqu'à demain.
Et les températures sont douces pour la saison?
Oui, digne d'un début mai. Hein. Il fait de 15 à 18 degrés sur la moitié nord, 15 à Rouen, 16 à Strasbourg, 17 à Paris et Nantes, 18 à Bourges. Sur le reste du pays, vous avez de 13 à 20 au thermomètre, 13 à Aurillac, 15 à Montpellier sous les nuages, 16 à Nice, 17 à Figari et Lyon, 18 à Bordeaux et 20 degrés à Biarritz.
Merci Sophie Brayat, je vous dis à demain.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
C'est un troisième jour de bombardement en Iran, mais c'est aussi désormais un conflit qui s'étend au Liban, dans les pays du Golfe, et tout le monde s'interroge. Que va-t-il se passer désormais au Moyen-Orient? Deux invités avec nous pour en parler. Yasmina Asrahis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheure associée à l'Université de Princeton et à la Fondation Jean Jaurès. Je cite votre dernier ouvrage, Le Mirage de la Paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes, qui est paru aux éditions Passé Composé. Bienvenue dans le studio de France Inter et bonjour à vous, Aïda Tavakoli.
Bonjour.
Vous êtes franco-iranienne, cofondatrice d'une association d'étudiants qui s'appelle We Are Iranian Students. Peut-être la première question pour vous d'ailleurs, Aïda Tavakoli, comment vous vivez les événements de ces derniers jours? Est-ce que ça suscite de l'inquiétude, un espoir de changement ou peut-être un peu des deux?
Écoutez, beaucoup d'inquiétude évidemment. La guerre est ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est des destructions massives, ce sont des morts qui sont aussi des morts civiles. Et aujourd'hui, on voit que c'est non seulement les civils iraniens qui sont visés, ce sont des civils israéliens, palestiniens, ce sont des civils aussi dans les États du Golfe. Donc le conflit s'étend, on a l'impression d'un engrenage de violence avec une absence totale d'une vision politique pour la suite. Donc c'est extrêmement inquiétant.
Parce qu'on avait entendu certaines voix s'élever disant, eh bien tant qu'à faire pour nous débarrasser de ce régime, on est prêt à accepter une intervention extérieure, une intervention militaire des États-Unis. Vous, c'est un scénario que vous aviez imaginé. Est-ce que vous y avez cru ?
Écoutez, bien sûr, on l'avait imaginé ce scénario, mais une séquence militaire seule ne peut pas suffire à un changement de régime. C'est-à-dire que avant l'intervention, tous les experts militaires s'accordaient à dire qu'une intervention qui se limiterait à des frappes aériennes ne suffirait pas à renverser le régime, déjà. Puis ensuite, quand Donald Trump a pris la parole au moment du début des frappes, il a bien expliqué qu'il affaiblirait le régime et qu'il protégerait avant tout les intérêts américains, c'est-à-dire en neutralisant l'appareil nucléaire, en neutralisant le balistique et en neutralisant aussi la chaîne de commandement du régime islamique, mais qu'ensuite, ce serait à la population iranienne de renverser le régime. Et en fait, c'est un vœu pieux, puisque la population iranienne serait à ce moment-là confrontée à un régime agonisant et donc plus agressif que jamais, militarisé, avec des armes de guerre. Et on a vu ce que ça donne il y a à peine 6 semaines, les 8 et les 9 janvier dernier, c'est 40 000 morts en 48 heures. Donc si cette population iranienne n'est pas accompagnée dans son souhait d'une transition démocratique politiquement, avec un véritable plan politique, un échéancier, un budget, avec une opposition qui est crédibilisée, qui est accompagnée dans une transition démocratique, eh bien c'est du suicide.
On va en parler dans un instant, hein, des conditions justement d'un changement de régime et d'une transition. D'abord un mot, Aïda Tavakoli, sur ce qui se passe sur place. Est-ce que vous arrivez, vous, à avoir des nouvelles de vos proches? Est-ce que vous savez comment ils vivent tout ça en Iran?
Malheureusement non, c'est une séquence qui est malheureusement trop familière, d'un blackout à nouveau. Donc les communications internet sont déjà extrêmement affaiblies, voire complètement coupées dans une grande partie du pays. Donc moi, je n'ai plus de nouvelles de ma famille. Je viens de voir des images de Téhéran, de mon quartier d'habitation dans lequel vit ma famille qui ont été bombardées. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et on sait que le blackout sert au régime islamique pour intensifier sa répression, pour intensifier les exécutions. On sait que sur les deux seuls mois de l'année 2026, 60 jours, c'est 552 exécutions par pendaison qui ont été documentées par la Fondation Bouloumane. Donc les prisons sont devenues des abattoirs, la répression continue et le blackout sert au régime pour pouvoir déchaîner sa cruauté contre la population civile.
Est-ce qu'on peut dire justement, Yasmina Asrahis, que la répression peut être encore plus forte justement après une intervention militaire extérieure ?
C'est un risque tout à fait envisageable. Peut-être simplement rappeler les deux temps de cette première intervention israélo-américaine. Hier, c'est véritablement sur les deux premiers jours, la cible était le régime dans ce qu'il a de plus iconique, à savoir l'ayatollah, son premier cercle, son fils, et donc cette espèce de noyau dur du régime qui est le porte-drapeau de ce régime islamique. Aujourd'hui, on voit bien que les
ciblent et les frappes israéliennes se font à d'autres endroits. Ils ciblent les commissariats, ils ciblent les noyaux durs de cet appareil répressif, dans l'idée potentielle de voir advenir dans les rues une foule qui ne pourrait pas être enfermée dans ces prisons, et donc que l'appareil répressif serait inapte à contenir les demandes populaires. Ça, c'est le vœu pieux, pour reprendre les termes d'Aïda, d'Israël. En revanche, les Américains sont depuis hier dans une toute autre posture. Ils demandent déjà à négocier, ils veulent que l'accalmie puisse ramener de nouveau ce qui resterait de ce régime islamique à la table des négociations. Ce qu'ils veulent, c'est négocier avec un pouvoir faible afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent de ces négociations. Plus d'uranium, plus d'enrichissement en uranium, plus nucléaire, plus de balistique. Et donc, pour les Américains, l'équation qui est en train de se jouer, c'est avec qui pouvons-nous négocier dans les prochaines semaines.
Mais vous rappeliez effectivement que, j'allais dire, l'un des axes de cette stratégie, c'est de dire, on agit et puis on appelle ensuite les Iraniens à s'emparer du pouvoir. Alors, je ne vais pas faire de vous la porte-parole de tous les Iraniens, bien sûr, Aïda Tavakoli, mais est-ce que vous imaginez que ça puisse être un appel qui puisse être entendu, qui puisse être suivi, ou est-ce que le traumatisme de la répression de janvier est encore trop fort ?
Écoutez, on a vu entre le début de l'intervention américaine et une semaine avant, c'était la seule semaine pendant laquelle les universités étaient ouvertes, et à l'instant où les étudiants ont mis les pieds dans leurs universités, les contestations ont repris et ils nous coupent le souffle à chaque fois avec ce courage immense. La population civile iranienne a déjà repris son destin en main, elle a déjà décidé de rompre complètement avec ce régime islamique. Et elle nous l'a prouvé à maintes reprises. Le problème, c'est que aujourd'hui, si on ne l'assiste pas dans les moyens pour renverser ce régime, elle n'y arrivera pas seule. C'est ce qui s'est passé en janvier dernier. Donc, la question n'est pas celle de savoir si la population iranienne va continuer à manifester, à s'opposer au régime et à se battre pour sa liberté, puisque elle nous a prouvé que malgré l'immensité de la cruauté de ce régime et la gravité, la violence de ses crimes, elle continue à se battre pour cette liberté. Mais que faisons-nous pour être à la hauteur de ce courage-là et pour défendre aussi une autre vision du monde que celle que nous propose Donald Trump, pour accompagner politiquement réellement la construction d'une transition démocratique et l'avènement d'un Iran libre.
Alors, je lisais il y a quelques jours un texte que vous avez co-signé pour la Fondation Jean Jaurès, Yasmina Asrarghis, justement consacré à cet affrontement qui menaçait en tout cas à l'époque où vous l'avez signé entre l'Iran et les États-Unis. Vous écriviez « L'architecture de pouvoir de l'Iran est précisément conçue pour survivre à la disparition de figures importantes ». Ça veut dire que c'est pas parce que l'ayatollah et son cercle proche ont été tués que le régime est anéanti.
Oui, c'est le propre de tout régime, d'autant plus que l'appareil de répression iranien n'existe pas depuis 2 ans. Ils se savent menacés de longue date, et donc ils ont créé un espèce de dédoublement des casquettes afin que ce que nous puissions voir il y a 2 jours arrive, à savoir que dès lors que les frappes ont commencé, les frappes israéliennes, 3 heures après, les premiers missiles iraniens ont déjà quitté le sol. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire que depuis 2 jours et demi et quelques, l'Iran est sur autopilote. Ils sont en train de gérer cette crise puisque d'autres personnes ont été fléchées pour prendre les décisions militaires et collecter un certain nombre de renseignements. Ce que ça veut aussi dire, c'est que quand bien même vous tuez un certain nombre de cibles, La résistance interne et la création d'une architecture qui durerait et survivrait à l'ayatollah est le propre de tout régime qui veut sa survie et sa reproduction. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la difficulté, si vous voulez, d'anéantir, entre guillemets, un régime par le ciel. Ça ne s'est jamais vu dans le Moyen-Orient et ça n'existera jamais. Et la difficulté des Américains à réellement trouver l'appui en interne pour obtenir soit des négociations qui vont dans leur sens, soit une nouvelle gouvernance issue de l'ancien régime mais qui se voudrait davantage coopérative avec l'Occident, et ce qui donnerait potentiellement un Iran 2.0, à savoir un Iran qui coopérerait sur le plan économique, s'éloignerait progressivement des Chinois, Chinois et des Russes, mais qui garderait toute une partie de sa nomenclature idéologique et de ce qui a fait ce régime, à savoir son idéologie islamique.
Alors, vous parlez de la Russie, je vous soumets justement cette question de Benjamin, qui nous a contacté ici à France Inter pour vous interroger. La Russie pourrait-elle intervenir d'une manière ou d'une autre en connaissant les liens économiques et militaires des deux pays ?
Alors, absolument pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans le cas russe, ils se servent des drones iraniens et de l'appui des Iraniens en Ukraine. Et que donc, ça a été un allié, en tout cas dans cette guerre contre l'Europe et contre les valeurs démocratiques européennes libérales. Les Russes, comme les Chinois, n'iront pas soutenir l'Iran. Ça n'est pas, ils ne sont pas allés soutenir Bachar el-Assad, alors qu'ils ont soutenu
C'était un allié important, pourtant.
Un allié, et puis il y avait une véritable démographie également russe en Syrie pendant des décennies. Donc il y avait, si vous voulez, une symbiose totale entre l'appareil sécuritaire russe issu du modèle KGBiste, KGB soviétique, et des Syriens de l'ère de Assad et de son père. Il n'est pas allé les sauver. Donc aujourd'hui, vous avez aussi des régimes, en particulier dans l'axe sino-iranien et russe, qui veulent eux-mêmes, qui cherchent eux-mêmes leur stabilité. Et donc tant que les Russes seront engagés dans cette guerre en Ukraine, ils n'ont pas intérêt à venir au secours du régime des Mollahs.
Qu'est-ce que vous attendez, Aïda Tavakoli, de la communauté internationale, de l'Europe, de la France plus particulièrement? Comment doit-elle se positionner dans ce conflit qui semble démarrer?
Merci pour cette question. L'Europe, aujourd'hui, c'est une question existentielle, en fait, pour elle, de défendre le droit international, mais aussi le modèle démocratique. On sait que c'est pas un modèle qui tient à cœur Donald Trump, donc c'est pas lui, d'ailleurs, il l'a annoncé, hein, c'est pas lui qui sera en charge d'une transition démocratique en Iran. Mais en revanche, pour l'Europe, c'est une question existentielle, aujourd'hui, de se réaffirmer sur la scène internationale et géopolitique et stratégique pour pouvoir protéger son modèle aussi, ce qui fait l'identité politique économique et sociale européenne. Et donc aujourd'hui, ce que nous propose la société civile iranienne, en réalité, avec ce projet de transition démocratique et de démocratie laïque au Moyen-Orient, elle nous propose une opportunité inédite pour l'Europe pour se réaffirmer. Et ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Deux piliers principaux. Le premier, c'est d'activer ce qu'on appelle la responsabilité de protéger qui a été votée en 2005 à l'ONU, qui explique que quand une population est en danger de crimes contre l'humanité, crime de génocide ou crime de guerre, ce qui est le cas pour la population civile iranienne au vu des événements de janvier dernier, eh bien il faut déployer tous les moyens technologiques, diplomatiques et militaires pour la protéger. Donc ça, ce sont des satellites Eutelsat qui permettent les communications d'être établies, et donc qui permettent de faire la lumière sur ce qui est en train de se passer et retiennent la répression du régime. Le deuxième pilier, c'est évidemment la construction de la suite politique, d'une séquence politique. Donc pour cela, il faut engager un véritable dialogue et un travail politique sérieux avec l'opposition iranienne qui existe. Elle est aujourd'hui, on a des figures comme Reza Pahlavi, on a des figures comme Mahsa Alinejad, comme Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, comme Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, qui est en prison mais qui est représentée par sa fondation, Nasrin Sotoudeh à l'intérieur de l'Iran, qu'on peut aussi contacter. Toutes ces personnes-là et les représentants aussi, évidemment, des minorités ethniques, parce que c'est un pays multiethnique et pluriel. Toute cette coalition d'opposition existe. Il faut qu'elle soit accueillie par l'exécutif européen et qu'un plan, un échéancier et un budget soient construits pour une véritable transition démocratique.
Mais qu'en pensez-vous, Yasmina Asrarghis? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que la diplomatie n'a pas perdu? Est-ce que l'Europe n'a pas été mise de côté déjà lorsqu'on voit les développements de ces derniers jours?
Malheureusement, je pense que l'Europe et la France, nous sommes spectateurs de ce qui se joue au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les acteurs du Moyen-Orient actuel, si nous l'avons été un moment. Très clairement, depuis au moins Jacques Chirac, nos mots, notre capacité à impacter le réel est clairement affaiblie. Et à part du symbolique et encore, nous ne sommes pas capables de véritablement transformer la réalité sur le terrain. Pourquoi ? Une raison principale, le désengagement. de notre diplomatie. Nous ne sommes pas assez présents sur le terrain, nous ne travaillons pas assez avec les acteurs de terrain et nous avons, à chaque fois que nous avons eu l'opportunité de faire partie de la marche, nous avons décidé pour des raisons morales ou de préférence idéologique, se retirer de ces axes. Et donc ce que je voudrais simplement rappeler sur ce qui est en train de jouer au Moyen-Orient, c'est que vous avez aussi une nouvelle cartographie qui est en train d'être mise en place depuis au moins l'ère de Donald Trump 1, mais qui a aussi bénéficié des travaux des administrations démocrates et conservatrices précédentes pour implémenter ce qui s'appelle les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de normalisations entre Israël et les États arabes du proche environnement, les Émirats en particulier, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Et lorsque Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, engage ce processus de normalisation entre Israël et plusieurs pays, la France et l'Allemagne décident de ne pas en être et décident de ne pas s'engager, de ne pas accompagner cette dimension. Ce qui s'est passé de 2020 à 2022, c'est qu'on a été spectateurs de ces accords qui ont, sur le terrain, impliqué des dizaines et des dizaines de Memorandum of Understanding, à savoir de coopération directe à plusieurs niveaux entre l'ensemble des ministères des pays arabes concernés et d'Israël sous gouvernance américaine. Donc tout ça se déroulait autour de Washington. Nous avons été spectateurs et de nouveau aujourd'hui nous sommes spectateurs car nous ne parlons pas quand nous n'aimons pas un dirigeant. Nous n'essayons pas d'être à sa table parce que nous estimons qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. La diplomatie c'est avant tout de parler à tout le monde, qu'on le veuille ou non. Si on veut éviter la désescalade, il nous faut parler et il nous faut faire partie du Moyen-Orient tel qu'il est aujourd'hui et pas tel que nous souhaitons qu'il soit.
Eh bien, ne plus être spectateur. Je crois que c'est le message que vous lancez toutes les deux. Merci mille fois d'être venues dans ce studio, Yasmina Srarghis et Aïda Tavakoli, d'être venues partager votre expertise dans le 13-14 de France Inter. Tout de suite, le feuilleton. Semaine dans leur vie à Paris. Cette semaine, à la découverte d'un magasin chargé d'histoire, le Bazar d'électricité, fête cette année ses 140 ans. Tout près de la place de la Bastille, c'est le temple parisien des lampes, des ampoules, de tout le matériel électrique, une adresse mythique qui a résisté à toutes les crises, à toutes les modes, avec sa vingtaine de salariés, près de 1000 mètres carrés de luminaires qu'il faut bien sûr allumer tous les matins. C'est la première tâche de Romain Pérez, patron du Bazar, avec son frère Alexis Morel, l'a rejoint quelques minutes avant l'ouverture.
Là, on va commencer à allumer le bazar d'électricité. On va mettre tout ça en lumière, disjoncteur par disjoncteur. Et il y en a quelques-uns. Généralement, il n'y a que la vitrine qui reste allumée, mais là, on allume tout le reste, tous les matins. On n'a pas d'interrupteur général. Normalement, ça devrait être peut-être un peu plus automatisé, mais c'est une vieille dame qui a ses spécificités.
Parce que la nuit, qu'est-ce qui reste ?
Uniquement les vitrines jusqu'à 1h du matin. Bonjour, je m'appelle Romain Pérez, je suis le directeur du bazar d'électricité avec mon frère Julien Pérez. Lui s'occupe plutôt de la partie un peu plus classique et historique et moi de la partie plus contemporaine. Le bazar d'électricité, il a ouvert ses portes donc en 1886, donc c'est vraiment 2 ans après l'invention de l'ampoule Edison. Donc il est vraiment contemporain des tout débuts de l'électricité en fait, hein, et de l'éclairage électrique on va dire. À la base c'est même vraiment d'où son nom, un magasin d'électricité, pas un magasin d'éclairage à proprement parler, parce que c'était tout neuf. Donc nous, la famille Pérez, on a racheté en 2002, parce que notre père était fabricant de luminaires et donc était fournisseur du bazar d'électricité depuis de nombreuses années. Quand mon frère a souhaité se lancer dans le commerce, il lui a dit « il y a une chose à faire, absolument, une priorité, c'est le bazar d'électricité, je le connais bien ». Le lendemain qu'on l'aura racheté, les gens feront la queue pour acheter les ampoules, pour acheter du fil, pour acheter une petite lampe, voilà.
Est-ce qu'on peut faire un petit visite guidée rapide, là ?
Ouais. Ici, il y a eu les travaux les plus récents, donc ça va plus vite. Ici, on a des interrupteurs.
Plus que 5, là.
Voilà, il n'y en a plus que 5, et vous allez voir, de l'autre côté, il n'y en a même plus que 2. Alors, on est au niveau de la caisse principale du haut, et le portrait que vous voyez en face de vous, c'est la fille du fondateur du bazar d'électricité, Monsieur Cochet. Et c'était la dernière dirigeante de la famille d'origine, voilà. L'espace dans lequel on se tient actuellement, c'est le rayon luminaire classique, mais à l'origine, il faut savoir que c'était les appartements de Monsieur Cochet. Donc c'est pour ça qu'on a des très jolies moulures, à certains endroits, on a des très beaux parquets, un grand et bel appartement haussmannien, parce que c'en était un, en fait, tout simplement. Donc là, vous aviez le petit boudoir. Par ici, donc, comme je le disais, la pièce plutôt art déco. On va prendre ce qui était un petit couloir haussmannien, certainement, qui était un petit peu exigu à l'origine, qui devait desservir des pièces un peu plus techniques, des chambres. Et sur notre gauche, là, on va avoir l'espace abat-jour. Au-delà des moulures, il y a comme témoin historique de ces 140 ans, alors ils n'ont peut-être pas 140 ans, n'exagérons rien, mais on a les grands meubles de métier qu'on a fait restaurer et on les a dispatchés un peu partout dans les magasins, en fait. Donc la plupart des comptoirs de vente au bazar d'électricité, ce sont des meubles de métier d'origine. Le bazar d'électricité, comme on le dit souvent, c'est un petit grand magasin. C'est-à-dire qu'il est organisé en rayons et chaque rayon a ses spécificités. Donc là, on vient de parler du classique, des abat-jours. On va avoir les ampoules là-bas. On a le rayon contemporain, le rayon moderne et le comptoir des réparations et du matériel électrique. Et chaque rayon va avoir ses spécificités et son équipe de vente. Tous les matins, effectivement, on allume et puis on contemple le magasin. Hein. On va redécouvrir toujours des surprises, en fait, quand on se balade ici. Donc il y a toujours une petite émulsion tous les jours. Tous les jours, quelque chose à redécouvrir.
Le bazar d'électricité à Paris, suite du feuilleton demain avec Alexis Morel.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France, c'est le lundi, c'est avec vous, Cécilia Arbona. Vous nous parlez d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au Musée d'Art Moderne de Céret, c'est dans les Pyrénées-Orientales, pour l'exposition Mimosa. Alors, c'est un nom de fleur, mais qui cache un artiste mystérieux.
Oui, il s'appelle Hippolyte Engen, il est né en 2007 et il a, comme qui dirait, une double vie, ou trouver son double. Hippolyte a grandi à Banyuls-sur-Mer. Engen est originaire de Clermont-Ferrand. Ces deux H se rencontrent à Paris après des études aux Beaux-Arts et leur gémellité apparaît comme une évidence. Ces deux-là partagent un imaginaire en miroir. Leur histoire, c'est une enfance dans des familles de la classe moyenne, dans le salon de coiffure de Madame et Monsieur Hippolyte, sur la Côte Vermeille. Des revues féminines s'empilent entre les fauteuils des dames et dans l'air flotte le parfum de la laque Elnett. En Auvergne, au domicile de Monsieur et Madame Engen, les aventures de Popeye défilent sur le téléviseur en noir et blanc. De drôles de mots s'échappent des albums de BD. Ils fusent et claque, comme dans Comic Strip de Gainsbourg.
Je sens que vous avez envie que je me mette à chanter Zip, Shebam, Pop, Whiz. Alors ce duo, Cécilia, il a donc entamé une aventure à quatre mains.
Avec une palette assumée de citations et de dédicaces à l'histoire de l'art et à la culture populaire. L'exposition Mimosa, c'est comme une après-midi passée dans un grenier. Un univers de collages et de bibelots recyclés et détournés. L'inattendu surgit sur les murs et même au sol, comme cette serviette éponge géante sur laquelle bronze une drôle de créature en monokini. Notre nana fait du topless, explique Engen. Ses jambes sont interminables. En fait, ce sont deux tubes en sky dégonflés, rose et brillant. Elle prend un bain de soleil ou alors c'est un bain à l'huile de coco, comme les adorables frites de la publicité végétaline des années 70, pub qui elle-même renvoyait aux chorégraphies aquatiques de la nageuse américaine Esther Williams.
Ça veut dire que les héroïnes de l'exposition, elles sont puissantes et sexy?
Émancipées et désirables, ce sont des pin-up qui un jour ont tapé du poing sur la table en disant stop, comme le résume Hippolyte qui poursuit. Merci à celles qui ont mené le condam MeToo pour nous. Dessins au pastel, coupures de presse, figurines chinées, vases précieux sauvés du rebut pour devenir trophées, photos instantanées tranchées dans le vif à coups de ciseaux. Les auteurs s'amusent à surprendre.
Alors après ce jeu de piste, Cécilia, on a envie de savoir qui se cache derrière les deux H.
Hippolyte Engen est un personnage fictif, une invention. Gaël Hippolyte et Lina Engen ont gommé les trois lettres du mot égo pour créer une identité non genrée, sans esperluette, sans slash ni trait d'union. Leur nom de famille chemine ensemble, tout simplement. Troublante sororité, car même physiquement, ces plasticiennes se ressemblent. Et même au téléphone, difficile de reconnaître la voix de l'une et de l'autre. Pas une seule dispute en 19 ans, se réjouit Lina. Notre collaboration, c'est le fruit du hasard et d'une bienveillance réciproque, complète Gaëlle. Cette amitié créative et récréative est lumineuse comme les mimosas au bord des routes du Val-Espire, des billes de duvet d'un jaune éclatant
qui annonce la fin de l'hiver.
Mimosa, c'est donc une exposition à découvrir au Musée d'Art Moderne de Céret. Et c'est jusqu'au 31 mai. Merci Cécilia Arbona. De C'est la France à C'est une chanson. C'est avec vous, Julien Baldacchino. Et votre invité aujourd'hui est pianiste.
Elle s'appelle Mira et s'est fait connaître sur les réseaux sociaux où près de 800 000 personnes suivent ses créations au piano. Elle vient de sortir son premier EP, mini-album de compositions originales avant un album à venir. Et elle a choisi de parler de William Scheller et de son titre « Au secours tout seul ». Et ça commence évidemment avec un piano.
J'ai plutôt découvert cette chanson dans l'album en solitaire. Parce qu'il y a une version où il y a tout, il y a plein d'instruments derrière, tout ça. Et je préfère la version piano-voix. Elle est très rythmée et je trouve ça super de pouvoir donner autant de contraste, de rythme juste avec le piano et la voix. On a l'impression qu'il y a un orchestre derrière et ça fonctionne déjà très bien sur cet album en solitaire.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur.
Je me reconnais beaucoup dans les paroles parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur un album. Souvent je me rends compte que qu'en tant qu'artiste on est seul dans la création parce qu'on pense, on croit à un projet et on est seul à croire à notre projet. Et si jamais on commence à avoir une petite perte de confiance en nous, on commence à ne plus trop croire en le projet, eh bien tout ça, ça n'existe plus et ça ne peut plus vivre, on ne peut plus accoucher du projet. Et je trouvais ça intéressant de présenter cette chanson parce que je le ressens pas mal en ce moment. Il peut y avoir des moments de down où on se dit « c'est fou, si jamais j'arrête de travailler dessus ». Eh bien, personne pourra le faire vivre et il n'y a que moi qui ai la clé pour pouvoir lui donner vie. Même si on peut avoir des moments de doute où on se sent seul, on continue et pour moi c'est évident, je ne m'arrêterai jamais, je veux faire ça, je vis de ça, je me sens la plus vivante quand je suis sur scène, quand je joue.
Et je regarde ceux qui se lument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
C'est une chanson de 1979 que William Scheller dit avoir composée, Julien, après un rêve où il se voyait courir à côté d'un train.
Et qui marque Mira aussi parce qu'elle l'a découverte, cette chanson, en famille.
C'est la personne qui nous présente la chanson, qui définit comment on va percevoir la chanson. Et là, c'est pas une chanson que j'ai découverte toute seule, c'est une chanson qui était distribuée par les seins familiales, par les parents. Et il y a quelque chose d'aussi très sain, très doux, quand c'est une personne de notre famille et que tout se passe bien. Là, en l'occurrence, mon papa, c'est lui qui m'a partagé ce goût-là pour la musique. Et donc, on prend tout à cœur et c'est quelque chose de beau, d'innocent.
Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens.
Vous êtes pianiste, avec une formation classique, qui fait des chansons. Vous avez choisi de parler d'un pianiste avec une formation classique qui fait des chansons. C'est pas un hasard, il vous inspire, William Scheller?
Bien sûr qu'il m'inspire. Et ça a toujours été une forme de papa musical, on va dire. Et c'est pas que cette chanson, en fait. Hein. Il y avait Les Filles de l'Aurore, il y avait plein d'autres morceaux. Et je pense que c'est celui-là qui m'a le plus touchée parce qu'il était vraiment rythmique aussi. Et c'est ça qui m'a pris et que j'aimais beaucoup danser dessus quand j'étais petite.
Le rythme, c'est important pour vous dans votre travail au piano?
C'est une question très drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler dessus parce que j'ai une formation classique où j'ai beaucoup été bercée par Chopin, Beethoven, Schumann, Schubert. Et toutes ces personnes-là m'ont apporté une formation assez 100% classique où on reste dans ce terrain-là des mêmes rythmes, des mêmes cadences. Et en fait, c'est ce truc un peu plus pop que j'essaye de chercher en ce moment et j'apprends donc plein de nouvelles choses comme ça avec un autre professeur qui est très très chouette.
Comment ça se passe d'apprendre le rythme justement, puisque là vous travaillez avec un nouveau professeur, il vous fait faire quoi?
Tout simplement apprendre à être plus je vais dire brutal sur le clavier, mais c'est vrai, moi je suis très souple, je lis aussi beaucoup toutes les notes sur le clavier, et donc je fais aussi des exercices de renforcement, et je travaille beaucoup ça pour pouvoir aussi gagner et que ça rentre dans mes membres, tout simplement.
Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres, je dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être, où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Cette chanson de William Schneider, Où je cours tout seul, c'était donc, Julien, le choix de la pianiste Mira.
Son premier disque s'appelle L'Échappée. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Merci Julien Baldacchino. Et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Quel est le programme de la Terre au carré?
Nous partons sur la Lune avec mon invité planétologue Sylvain Boulet.
A tout de suite Mathieu.